une exclusivité backstage.
Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Amandine Julien. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Je me présente brièvement. J'ai la chance, depuis maintenant plus de 5 ans, d'oser vivre de ma passion suite à un changement de vie radical. Je coach et je forme des hommes et des femmes pour renforcer leur estime et confiance en eux, leur aisance relationnelle, leur affirmation et leur aisance oratoire. Rien que ça. Tous ces sujets ont le point commun de l'expression de soi. L'expression de soi pour prendre sa place, sa juste et légitime place. À mes yeux, prendre sa place est un droit, mais aussi un devoir. Oui, un devoir que nous avons tous et toutes, celui de faire entendre nos voix. Je suis ravie de vous partager quelques pages de mon histoire, en toute intimité, soyons fous, sur Backstage. C'est à la Belle de Mai, à Marseille, que je pousse mon premier cri, le 16 avril 1977. Premier enfant de mes parents, j'étais une petite fille plutôt sage, c'est-à-dire calme et obéissante. Observatrice et introvertie, avec une imagination insatiable, j'avais des allures de garçon manqué. Les gens d'ailleurs m'appelaient Julien, confondant mon nom de famille avec mon prénom. Bout en train et enthousiaste, je n'avais pas une grande confiance en moi. C'est peut-être une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne mes clients pour mieux s'exprimer et s'affirmer dans leur vie professionnelle et personnelle. J'ai grandi dans les ruelles étroites et pavées du vieil Istres, au cœur de la Provence. Ruelles où se mêlaient les rayons du soleil, avec les odeurs de cuisine à l'huile d'olive, les branches d'olivier auxquelles on grimpait avec les enfants du quartier, et nos cris et fous rires. J'ai aimé y grandir de manière insouciante et privilégiée, dans une jolie maison ancienne avec mes deux parents. À l'aube de mon 6e printemps, mes parents se séparent. Et 2 ans plus tard, je suis ma mère au Canada pendant 3 ans, où je ne verrai alors mon père qu'une à deux fois par an, pour Noël et les 2 mois d'été. Quel déchirement! Ce fut extrêmement violent pour la petite fille sensible et très attachée à son père que j'étais. Mon père était un être torturé intérieurement depuis son enfance et il avait de nombreuses addictions, dont celle à l'alcool. Mais il était aussi sensible, maternant, chaleureux, câlin et aimant. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Mais je me revois encore à l'arrière de cette voiture roulant au milieu des immenses espaces boisés du Québec, à Montréal, là où on venait juste d'atterrir avec ma mère. Et c'est là, à cet instant précis, que j'ai réalisé « Désormais, plus rien ne sera comme avant. » Les ruelles pavées, les cris de joie avec mes amis, la vie à trois. C'était fini. J'étais désormais seule avec ma mère, qui n'était ni la plus maternante, ni la plus joyeuse et drôle des mères. Plutôt austère, critique et très sévère avec moi, elle me parlait peu et ne jouait pas beaucoup avec moi. Alors qu'elle savait, paradoxalement, se montrer très joviale, chaleureuse et très sociable avec ses amis et collègues. Et aussi avec les enfants dont elle s'occupait, puisqu'elle était éducatrice de jeunes enfants. À croire que le cordonnier est le plus mal chaussé. Quelle incohérence et injustice pour la petite fille que j'étais, en manque cruel d'amour et de considération, et qui s'imaginait qu'elle ne méritait pas l'attention, la chaleur, les paroles de sa mère. J'apprendrai ensuite avec l'âge que nous avons tous une part d'ambivalence en chacun de nous. Mais je n'avais plus qu'elle comme seul repère à présent. Un repère qui était aussi fiable, fort et solide. Plus de maison, plus d'amis, plus de chats, plus de papa. Une partie de moi s'est glacée, figée d'effroi ce jour-là. J'ai ressenti quelque chose qui se serrait, une douleur au plus profond du petit cœur de la fillette de 8 ans que j'étais alors. Mais pourquoi aussi loin? Pourquoi le Canada? Non. Plutôt pour qui? Telle était la bonne question. Ma mère était tombée amoureuse d'un Canadien. Ce troisième mari fut un mari de courte durée, un CDD d'une petite année à peine. Juste le temps pour elle de se rendre compte que sa nouvelle idylle s'avérait être un escroc professionnel, dont les derniers mariages s'étaient étrangement tous mal terminés, dans des circonstances aussi mystérieuses que louches. Après un procès, il fut interdit de s'approcher de nous deux et de notre domicile. Je n'en ai jamais su davantage. Dans ma famille, on ne parlait pas, ni de ça, ni de ses sentiments, d'ailleurs. À l'école où j'allais, à Laval, qui est une région francophone, les autres enfants se moquaient de mon accent français. Mais je décidais que cela ne m'atteindrait pas. Ce qu'ils pensent et disent de moi ne sont pas ce que je suis. Cette phrase, sans que je le sache, a été essentielle dans la construction de ma confiance en moi, ou plus précisément dans l'estime de moi que je nourris. Bref, après 3 ans au pays des caribous et du sirop d'érable, on rentre en France avec un quatrième mari et on s'installe dans la banlieue parisienne pendant 4 années. J'ai gardé de cette période grisâtre, comme la météo, des amitiés profondes et joyeuses avec mes voisins de palier et les garçons de la résidence où on habitait. Le doux souvenir ému de la naissance de ma petite sœur, une magnifique blonde aux yeux bleus, que j'ai aimée encore plus qu'une sœur, comme si elle avait été un peu ma fille. J'ai aussi conservé de cette époque le très désagréable souvenir de colonies de vacances en Bretagne, où je découvrais avec horreur, une fois arrivée sur place, que j'étais la seule fille et que j'allais devoir pratiquer le football, le rugby et la voile. Activités pour lesquelles je n'avais aucune appétence. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus forte, Amandine. Telle est ma devise. Fini la grisaille, direction le sud de la France, grâce à la mutation à Cadarache de mon beau-père. Beau-père qui s'occupe si bien de moi. Je rentre alors au lycée, et ces nombreux déménagements et changements de vie, de ville, pays, amis, voisins, beau-père, m'ont permis de m'adapter de moins en moins douloureusement à un nouvel environnement. J'ai ainsi appris à être plutôt à l'aise lorsque je sortais de ma zone de confort, à être à l'aise dans l'inconfort de cette sortie de zone confortable et sécurisée. Depuis toujours, me semble-t-il, je suis fascinée par le comportement humain. Qu'est-ce qui fait qu'une personne se comporte d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce qui fait qu'une personne nous intéresse, nous séduit, nous donne envie de l'écouter, de la regarder? Dès l'enfance, je me posais des tonnes de questions. J'avais une vie intérieure aussi riche qu'intense. Je m'étais construit toute une vie à l'intérieur qui faisait que même en étant seule, je ne m'ennuyais jamais. Grâce à cette vie de solitude, du fait d'être fille unique jusqu'à mes 12 ans, grâce à cette vie intérieure, je me suffisais à moi-même. Je découvrirai bien plus tard que cette compétence d'autonomie affective est ô combien précieuse. Grâce à mon observation aiguisée des autres petites filles que j'admirais et qui semblaient avoir une solide confiance en elles, je me forgeais au fur et à mesure des changements de lieu de vie une nouvelle facette de ma personnalité, en mimétisant et en adoptant ce que j'admirais chez les autres petites filles, que je ne pensais, bien sûr, ne pas détenir moi-même. C'est une vraie technique d'acteur professionnel et de développement personnel que j'ai nommée « si j'étais ». Comme l'avait déjà fait bien avant moi le psychologue et philosophe américain William James. Je me suis ainsi réinventée de nombreuses fois en ajustant, remodelant ou même développant des facettes en moi. À chaque départ, chaque déménagement, c'est une nouvelle chance et opportunité de devenir une meilleure version de moi. Lors de mes analyses psychosociologiques enfantines, j'avais découvert que ce n'est pas qui je suis qui compte, mais qui je pense et crois être, qui détermine en grande partie la perception que les autres ont de moi. Si je pense être une nana formidable, alors les autres vont également le penser. Et inversement, ma croyance sur moi-même devient réalité. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que cette compétence, ce savoir-être, est précieux pour se sentir légitime. Après un énième déménagement dans le Vaucluse et mes années lycées écoulées, je décide de suivre des études scientifiques en biologie et biochimie. Car j'ignore complètement ce que je veux exercer plus tard comme métier. Selon ma mère, mon rêve d'enfant était d'être chef de gare. Je me demande encore bien qu'est-ce qui a pu m'attirer dans ce métier. Hormis le fait d'avoir un sifflet et de commander grâce à cet outil sonore, je vois pas vraiment. Me voilà donc sur les bancs de la faculté d'Aix-en-Provence, puis de Saint-Jérôme à Marseille, où je bosse assidûment et avec ténacité, jusqu'à obtenir un DESS de métrologie et gestion de la qualité en bio-industrie. J'ai alors la chance d'avoir plusieurs opportunités de poste, à Dijon, Paris et Aix. Je privilégie alors le lieu plutôt que le poste en lui-même. Je débute ainsi ma vie professionnelle en tant que responsable qualité, puis sécurité et environnement dans une entreprise de BTP de renom, Dumez Méditerranée, basée à Aix-en-Provence. Après 8 ans à ce poste, à œuvrer avec les équipes et à réaliser des audits pour des filiales du groupe, je suis nommée à une fonction qui vient d'être créée. Responsable communication de Vinci Construction France, avec l'ensemble des supports et outils à créer pour développer la communication du groupe pour toute la région sud. Waouh ! Quel défi ! J'étais ravie et honorée que l'on reconnaisse ma valeur en me confiant ce nouveau poste à responsabilité. Mais cela n'arrangeait pas mon syndrome de l'imposteur, puisque je n'avais aucun diplôme en communication à mon actif. Mais l'excitation de nouveaux défis à relever est plus forte et je m'éclate à ce poste. Quel kiff ! J'ai la chance de pouvoir constituer une équipe pour œuvrer à développer l'image du groupe, tant en interne qu'en externe. 16 années après moult défis relevés en équipe, la psychiatre face à moi m'annonce que je vis un burn-out. Alors, même que la nouvelle direction du groupe venait gentiment de me foutre au placard. J'ai du mal à y croire. Mais en effet, je constate que je n'ai plus d'énergie. Et mon élan, mon entrain naturel est au rendez-vous absent. Je décide alors de quitter ce groupe que j'ai tant aimé, à qui j'ai tout donné et dont j'ai aussi beaucoup reçu des hommes et des femmes qu'il composait. Il représentait pour moi une seconde famille, voire même la première, car on partageait énormément de valeurs communes. L'engagement, le travail, le dépassement de soi, le goût de l'effort, l'ambition, la franchise, la confiance, sans oublier l'épicurisme avec joie de vivre, fiesta et humour. Je me retrouve ainsi chez moi, dans le tout nouveau nid que nous venons de construire avec mon compagnon et mon adorable fille âgée de 2 ans. Je m'interroge sur l'orientation de ma future vie professionnelle. Mais là, c'est le néant, quoi. Rien. Nada. Walou. Que nenni, je suis vide. Rien ne vient. Aucune réponse, aucun élan. Je m'autorise à prendre alors du temps pour moi. Moi qui ai toujours été hyper active et toujours dans l'action, du temps pour me poser, réfléchir et trouver ce qui m'anime et ben qui je suis à l'aube de mes 40 printemps. Je m'inscris ainsi dans une école de coaching pour suivre une formation diplômante de coach avec pour seule ambition d'en apprendre davantage sur moi-même. Et là, c'est la révélation. Je tombe littéralement amoureuse du développement personnel et de ce métier d'accompagnement de l'évolution humaine. En parallèle, j'accompagne ma mère en fin de vie depuis plusieurs mois jusqu'en Suisse où elle aura la chance de pouvoir mettre fin à ses jours de manière légale et volontaire. Quelle épreuve de vie, pour moi mais surtout pour elle. Paradoxalement, cette proximité avec la mort et son départ me donne une énergie débordante et je retrouve mon appétit insatiable pour la vie. Comme si je devais dorénavant vivre pour deux. Sur les chaleureux encouragements de mes professeurs, j'ose me lancer dans ce nouveau métier et à mon compte. Nouvelle vie, nouveau défi. Yes ! Cela fait maintenant 5 ans que je vis et vibre au rythme des battements de mon cœur, au rythme de ma passion. Et c'est loin d'être un long fleuve tranquille. J'ai ainsi créé ma société, Scintillae, mot latin qui signifie « étincelle ». J'aime l'idée de pouvoir créer des étincelles avec mes clients, mais aussi en eux-mêmes. Mon rêve actuel est d'être un catalyseur d'expression, afin que votre communication serve votre ambition. Avec vous-même, pour renforcer votre estime et confiance en vous et vous sentir plus légitime. Avec les autres, pour devenir un véritable caméléon et être à l'aise-blaise dans toutes vos relations et face à n'importe quel interlocuteur. Et enfin, avec et face à un public, pour servir et honorer au mieux vos valeurs et vos idées. Ce sont les 3 niveaux d'expression de soi dans lesquels j'ai décidé de me spécialiser et de vous accompagner avec énergie, détermination et authenticité. Cette société, Scintillae, est née grâce à 3 expériences fortes et douloureuses qui se sont juxtaposées et enchaînées en à peine quelques mois. La première est mon burn-out et des soucis de santé qui m'ont fait réaliser que le poste que j'occupais et les personnes pour qui je me levais chaque matin n'étaient plus faits pour moi. La seconde fut l'échec de mon parcours en PMA, procréation médicalement assistée, afin de mettre au monde un second enfant qui aura finalement vu le jour symboliquement et après 9 mois de gestation à travers Scintillae, ma société. La troisième et dernière expérience fut d'avoir eu la chance d'accompagner jusqu'à son dernier souffle ma maman lors d'une démarche de suicide assisté en Suisse, puisque ce n'est malheureusement pas encore légalisé en France. J'ai réalisé qu'à peine arrivée à l'âge de sa retraite, au combien dûment mérité, et où ma mère comptait enfin profiter de sa vie, faire tout ce qu'elle aimait, comme randonner, faire de la couture, s'investir dans de l'associatif. Elle tomba gravement malade, d'une maladie orpheline, neurologique, incurable. Elle aura travaillé durement et de manière acharnée, dans un sacrifice total, toute sa vie, sans ménager ni ses heures ni ses efforts, pour mourir à l'âge de 67 ans, quelques années à peine après sa retraite. Je vous dis, ça vous fait réfléchir, croyez-moi. Ce lien étroit avec la mort m'a permis d'ouvrir les yeux sur la rareté de notre temps, de notre énergie et de notre vie sur Terre. C'est dès maintenant et dès aujourd'hui que je veux profiter, que je veux aimer, kiffer et m'éclater dans ma vie, personnelle et professionnelle. Pourquoi choisir ? Moi, je crois que on peut tout avoir et que nous avons même ce droit de naissance de pouvoir jouir de notre vie sans attendre l'âge de la retraite. Merci, maman, de m'avoir offert ce si précieux cadeau à ton départ. je t'aime.